Europe 1,
9h-11h,
François Claus.
Deuxième heure, donc fait le tour de la question et d'avoir débordé d'une minute pour essayer de sauver la Terre quand les océans débordent. Finalement, ce n'est pas grand-chose,
oui, voilà.
Hein, Marlène. Deuxième heure, on fait le tour de la question et on va s'intéresser aux Jeux Olympiques, car on a appris au mois de novembre que la ville de Calgary au Canada, qui avait organisé les Jeux d'hiver déjà en 88, après un référendum, a dit non à l'olympisme. Ce refus, il n'est pas isolé. Il vient après celui de la Norvège, celui de la Suisse, celui de l'Autriche, celui du Japon, grand pays organisateur dans le passé de Jeux Olympiques d'hiver. Et si l'on parle des Jeux Olympiques d'été, alors que la France s'apprête à fêter 2024, eh bien il y a eu des désistements successifs, Budapest, Rome, Hambourg. Qu'est-ce qui se passe avec les Jeux Olympiques qui nous ont fait tant rêver? Sont-ils victimes de leur succès? Sont-ils devenus trop gigantesques? C'est la question que nous posons et on va essayer de faire revivre le rêve olympique qui semble aujourd'hui, en tout cas dans le cœur des citoyens qui s'expriment par référendum, s'étioler. Et pour évoquer cette question, je suis très heureux d'accueillir en studio un homme qui incarne l'olympisme. Il nous a fait rêver sur les podiums. Il a été ensuite très combatif sur le plan politique. J'ai nommé Jean-François Lamour. Bonjour, monsieur Lamour.
Bonjour.
Heureux de vous accueillir sur Europe 1 aujourd'hui. Et puis, il est l'un des grands penseurs de l'olympisme en France. Il a participé à plusieurs dossiers de candidature. Il écrit un livre qui, dans son sous-titre, résume peut-être tout le débat que nous allons avoir aujourd'hui. Paris Olympique de 2024, chance ou malédiction? Point d'interrogation. Bonjour Armand de Reninger.
Bonjour.
Cette question, si elle vous passionne, vous intéresse, vous interpelle, alors que, je le rappelle, nous sommes là dans les, on va dire, les frémissements, c'est un petit peu loin, mais quand même, Paris 2024 se profile.
On en prend un peu de temps.
Eh bien, le 39-21 est ouvert pour
et
vous.
Oui, vous pouvez réagir, intervenir sur notre antenne, 39-21, 50 centimes la minute, c'est le standard d'Europe 1, et puis vous pouvez aussi, bien sûr, nous laisser un petit commentaire sur les réseaux sociaux liés à la page Facebook d'Europe 1 et Twitter avec le hashtag Europe 1.
9h-11h, on fait le tour de la question avec François Claus sur Europe 1.
Nous verrons tout à l'heure où en sont les préparatifs de Paris 2024, si le débat est là au cœur de la question sur l'enthousiasme ou non des Français autour de ces Jeux Olympiques. En attendant, Jean-François Lamour, je faisais la liste là des désistements. On a l'impression très nette qu'il y a aujourd'hui une désaffection pour les Jeux Olympiques.
En tout cas, on a une opinion publique extrêmement volatile sur le sujet. C'est-à-dire, elle aime les Jeux. Je pense que le jour de la cérémonie d'ouverture, tout le monde sera heureux d'accueillir les Jeux, de les voir dans les stades ou à la télévision. Mais à 6 ans de l'événement, beaucoup de questions se posent. Elles sont de plusieurs ordres. La première question, c'est le coût des Jeux. C'est vrai que c'est un événement qui demande beaucoup d'investissements et surtout des investissements qui sont concentrés sur une toute petite partie d'un territoire.
Sur une période assez courte
et
finalement.
Sur une période qui fait 15 jours Jeux Olympiques et 15 jours Jeux Paralympiques, qu'il faut évidemment associer à l'événement organisé en 2024. Donc ça, c'est déjà un premier élément en disant, mais pourquoi est-ce qu'on concentre autant de moyens, autant de pouvoir sur un territoire et sur une durée aussi faible. Il y a un autre élément, je pense, c'est sur le vieillissement de la population qui regarde les Jeux. Et je sais que le CIO travaille en particulier à rajeunir le programme olympique, à faire rentrer des sports qui aujourd'hui intéressent plus une jeune génération.
On va avoir de l'escalade, du surf.
Vous savez, je crois qu'aux jeux de la jeunesse qui ont eu lieu à Buenos Aires il y a quelques semaines, on a découvert aussi le parcours, vous savez, ce genre d'activité qui se déroule en milieu urbain et qui correspond certainement un peu mieux à une pratique donc rajeunie. Et on a un troisième élément, mais là, c'est un sujet très politique aujourd'hui, en particulier en France, dans le champ de la réforme de la gouvernance du sport en France, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé de rentrer dans un club pour pratiquer un sport. Grâce à vos réseaux sociaux, vous pouvez vous retrouver sous la direction d'un coach n'importe où dans Paris, sans véritablement partager une passion commune, qui est une pratique de sport qu'on a connue pendant très très longtemps, en gros.
Et dont l'olympisme était l'atmé, finalement.
Et voilà, c'est la naissance, en gros, de l'olympisme moderne, c'est la pratique du sport en club. Et aujourd'hui, cette structuration de la pratique sportive, qui est tant à l'école, temps en club a tendance un peu à disparaître. Alors, et donc le monde olympique est confronté, comme nous d'ailleurs, hein, qui participons à la création de ces Jeux à Paris, à ce triple défi, et donc à une opinion publique qui aujourd'hui se pose des questions.
Alors, vous avez évoqué les trois raisons majeures selon vous, donc le budget, vieillissement de la population qui suit et qui s'intéresse aux JO, et la pratique sportive dans les pays. Armand de Reninger, les budgets, parlons d'abord des budgets, c'est exponentiel aujourd'hui. Vous avez quelques chiffres à nous donner. Si on fait une comparaison entre, je ne sais pas, Rome 1960 et Rio 2016.
L'explosion des budgets par rapport au budget promis lors des candidatures des villes a explosé de l'ordre de 176% de dépassement en moyenne.
Alors là, vous parlez du dépassement du budget.
Du dépassement du budget, c'est-à-dire au-delà de la promesse qui a été faite à la population en ce qui concerne l'organisation des Jeux, sur le plan financier, la moyenne depuis les Jeux de Rome, c'est 176%, avec des pointes absolument invraisemblables. Vous prenez par exemple les Jeux de Pékin de 2008. Mais les Jeux de Pékin de 2008, c'était 4 milliards de budget, 32 milliards à l'arrivée d'euros. Sochi, 4 milliards au départ, 40 milliards à l'arrivée d'euros. Donc, c'est totalement exponentiel. On prend Londres, qui nous avait battu pour 2012, qui avait fait une promesse d'un budget de 4 milliards. On en est à 13, et encore, on n'a pas tout compté. Donc, même les gens... Tokyo, 2020, un pays sérieux qui a déjà organisé les Jeux en 1964, avait prévu un budget de 4 milliards. On est monté jusqu'à 27 milliards, on est descendu à 13 milliards. Donc, et on est encore à un an et demi des Jeux. Donc, il y a un problème économique qui est lié au modèle économique des Jeux proprement parlé, où il y a un déphasage total entre la promesse qui est faite pour l'organisation des Jeux, je parle que du budget de l'organisation des Jeux,
pour gagner la candidature
et le résultat à l'arrivée. Et en plus, on ajoute à cette promesse, il y a un autre phénomène économique, c'est l'effet JO. C'est qu'on considère que les Jeux sont intéressants pour la fête et pour les sportifs. Ils font rêver, et c'est normal pour tous ces athlètes qui sont battus, et Jean-François Lamour en est un exemple, pour gagner des médailles d'or, et c'est remarquable. Mais ça n'a d'intérêt pour la population que si l'effet JO dont on parle, eh bien, existera.
Il perdurera.
Et là, il y a
en termes d'aménagement urbain, en termes de...
Voilà, purement la partie économique, c'est ça. C'est JO et effet JO.
Voilà pour le constat. Ben, on va voir les causes. On va essayer de les développer pour mieux arriver au remède potentiel. On fait le tour de la question, Marlène.
On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public. Les Jeux Olympiques font-ils encore rêver, François ? On fait le tour de la question jusqu'à 11h sur Europe 1 avec vos invités. On a un ancien ministre des Sports, Jean-François Lamour, et puis Armand Reninger est avec nous également en studio, consultant sur l'olympisme et auteur d'un ouvrage, Le Paris Olympique de 2024, chance ou malédiction.
Avec 24 défis à relever, on va voir avec Armand de Reninger quels sont ces défis. Mais je voulais... on a fait ce constat de l'explosion. C'est dû à quoi cette explosion ? Il y a clairement le budget sécuritaire qui a augmenté compte tenu du contexte planétaire, mais pas seulement.
Non, l'explosion est au fait qu'il y avait une surenchère au niveau du CIO pendant des années, qui considérait que le meilleur dossier, c'est celui qui était le plus coûteux. Pour faire court, on promettait des mille choses qui n'avaient rien à voir avec les Jeux Olympiques proprement parlés.
Et donc ça, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on considérait systématiquement que pour avoir des Jeux qui soient sublimes, qui soit à la hauteur de l'enjeu des Jeux Olympiques, il était nécessaire d'y ajouter des éléments liés à, je dirais, à des cérémonies, à des actions, je dirais, de nature politique, je dirais, générale, qui n'ont à la limite rien à voir directement avec les Jeux, qui faisaient que ça coûtait très cher. Et qu'il fallait convaincre les membres du CIO, qui sont les membres votants du CIO, et qui considéraient que les Jeux Olympiques leur appartenant, ils ne voulaient pas aller n'importe où. Il fallait aller dans une ville qui leur offrait, j'allais dire, des accommodations, une logistique à la hauteur de l'événement proprement parlé.
Donc là, vous pointez du doigt, vous confirmez, Jean-François Lamour, une forme de dérive du CIO lui-même, de l'institution CIO.
Oui, parce qu'il fallait toujours faire mieux, avoir toujours les meilleurs jeux, ce qui n'est pas le cas pour Paris. L'avantage finalement d'avoir été candidat à plusieurs reprises, hein, je rappelle que la première candidature date de Jacques Chirac pour les Jeux de 92, 1992, c'est que nous avons construit quasiment tous les équipements nécessaires pour accueillir les Jeux. Regardons un peu maintenant ce qui est positif quand même
sur l'organisation de Paris tout à l'heure.
Ce qui est exact, c'est qu'à chaque fois, on voyait bien d'ailleurs que les visites du CIO dans la dans la candidature, dans la phase de candidature, c'était « faites-nous rêver, montrez-nous que vous êtes capable effectivement d'investir ou de dépenser beaucoup pour nous accueillir ».
Et le rêve, ça peut coûter très cher.
C'est très clairement un des éléments aujourd'hui pris en compte par le CIO, qui tente à tout prix, on le voit là, dans les premières visites de la commission de coordination des Jeux, qui est présidée par un Belge, M. Becker, c'est de réduire au maximum la facture. Et de faire en sorte, je vous donne un exemple très concret.
Allez-y, oui.
Pour montrer que maintenant le CIO a bien en tête ce sujet, il était prévu de construire une piscine olympique avec une jauge de spectateurs à 17 000 places, qui aurait été réduite un peu après les Jeux. Eh bien, cette piscine, elle ne sera que provisoire, c'est-à-dire qu'elle sera construite pour les Jeux, mais démontée ensuite dans son volume de 17 000 places et reconstruite ailleurs, mais avec un nombre de places très limité, ailleurs en Seine-Saint-Denis. Ça, c'est ce qu'on appelle l'héritage laissé par les Jeux Olympiques et sur lequel l'opinion publique est très attentive. À quoi servent les Jeux et qu'est-ce qui va rester après? Eh bien là, il restera entre 5 et 8 piscines qui seront reconstruites un peu partout en dehors de la sphère olympique après les Jeux de 2024. Ça, c'est un premier élément, un premier exemple qui démontre effectivement qu'il y a une prise en compte de ce gigantisme qui entraînait le monde olympique dans une impasse.
Et cette prise de conscience, Armand de Reninger, elle doit s'effectuer assez rapidement parce que on le voit dans les référendums, les gens ne veulent pas payer des impôts pour un rêve mondial de 15 jours ou d'un mois.
Après, la prise de conscience, elle est immédiate, elle est radicale. Le CIO ne peut plus se permettre d'avoir une ville qui organise les Jeux Olympiques qui a un dépassement budgétaire selon l'envergure
ce que vous
j'expliquais
évoquiez tout à l'heure.
Donc ce n'est absolument plus possible pour l'image du CIO et pour sa pérennité et pour sa gouvernance propre. Il est indispensable qu'effectivement, Paris puisse maîtriser le budget de 6,8 milliards, mais que derrière, en 2028, Los Angeles aussi puisse le maîtriser. Alors pour cela, il faut reconnaître que le CIO, qui est vraiment très conservateur, mais a évolué d'une manière radicale depuis 2 ans, a considéré qu'il était absolument indispensable que les Jeux Olympiques, l'organisation des Jeux et l'effet des JO s'intègrent dans la politique municipale, dans la politique régionale, dans la politique nationale du pays où sont organisés les Jeux. Pendant des années, on ne s'occupe pas du tout de ça.
On l'a vécu à Rio. Pour avoir été à Rio, les Jeux étaient plaqués sur la ville, y compris le stade olympique qui était quasiment
absolument
en plein centre de Rio. On se baladait dans les rues, on voyait des petites gargotes, les gens qui étaient là, mais rien à faire.
Rien à faire.
Stade était par moments trois quarts vide. Il l'a été plein après, mais on avait l'impression qu'on avait plaqué un stade gigantesque au milieu de la ville. Et on voit que Rio en paye le prix aujourd'hui.
Paye le prix comme Athènes. Et maintenant, c'est terminé. Alors, est-ce que on va être capable d'intégrer, et ça, Jean-François Lamour est bien placé pour répondre à cette question, est-ce qu'on va être capable, dans les 5 années qui viennent, de véritablement intégrer politiquement et économiquement et socialement et au plan de l'héritage, intelligemment, les Jeux Olympiques dans la politique municipale,
c'est-à-dire
la politique,
vous êtes en train de dire nationale. Ça peut être un booster d'aménagement du territoire.
Absolument.
On en parlera tout à l'heure avec le Grand Paris, transport urbain, habitat.
Si on a l'effet JO derrière aussi. Alors, est-ce qu'on a les moyens d'investir dès maintenant dans les FGO? C'est une autre histoire. Donc, il y a maintenant une confusion, et c'est une très bonne chose, mais il peut y avoir une sorte de rejet en même temps de la population en disant, mais attendez, on confond politique et puis Jeux Olympiques. Donc, il y a un hiatus à gérer, et il faut le gérer intelligemment. Et ça, c'est un de nos challenges.
Et c'est un des challenges pour Paris 2024 et pour l'avenir, plus globalement, des Jeux Olympiques, parce que la question des Jeux d'hiver 2026, elle est très clairement posée après le refus de Calgary.
À quoi servent les Jeux Olympiques? Que restera-t-il après? Notre invité Jean-François Lamour expliquait la prise de conscience de la part du public. Et peut-être que nos auditeurs souhaitent s'exprimer d'ailleurs à ce sujet. Ils peuvent le faire au 3921, c'est le standard d'Europe 1. Et puis tous vos commentaires sont bien évidemment les bienvenus sur les réseaux sociaux, la page Facebook d'Europe 1 ou encore Twitter avec le hashtag Europe 1. Europe 1. On parle des Jeux Olympiques. Font-ils encore rêver, François Claus? On fait le tour de la question avec vos invités. Armand de Deranger. C'est ça, hein, de Rendinger, pardonnez-moi.
C'est pas grave.
Pardonnez-moi.
C'est alsacien.
Consultant.
Vous parlez un Claus, qu'on appelle parfois Claus. On doit vous dire Rendinger parfois si on prononce
Rendinger,
à l'allemand.
On m'a tout dit, mais appelez ça de Rendinger.
Bon, ça va alors, je me culpabilise.
Mais oui, Marlène, ne culpabilisez pas.
Consultant sur l'olympisme. Et puis.
Lui, il a un beau nom. Hein.
C'est Jean-François Lamour.
Ben oui.
Ancien ministre des Sports. Conseiller municipal de Paris.
Médaillé olympique, quelle année, rappelez-nous
84, 88, 92.
Eh oui. oui, trois Olympiades, vous avez fait rêver au sabre, bien sûr.
Ça date un peu, mais bon.
Non, mais parce que c'est ça aussi le rêve olympique. On a ces souvenirs-là tous en tête. Moi, l'escrime, je ne regarde jamais de l'escrime, mais tous les quatre ans, je regarde de l'escrime et je suis passionné par l'escrime. D'ailleurs, quand on le voit en live, c'est quelque chose de fabuleux. Mmh. D'ailleurs, à Paris, l'escrime, ce sera...
Au Grand Palais.
Au Grand Palais.
Il y a déjà eu des championnats du monde. Donc vous voyez, là aussi, un
exemple. Un lieu magnifique, ouais.
Un exemple d'un lieu qui se prête parfaitement à cette discipline, qui est donc un lieu provisoire, magnifique. Ça va donner... Il y a déjà eu des championnats du monde en 2010. Ça va offrir déjà une grande capacité pour accueillir les spectateurs. Évidemment, de très belles images avec cette coupole. Et ça montre bien cet équilibre subtil entre des équipements qui se prêtent bien à la discipline, mais qui ne sont pas définitifs, et donc qui, de fait, allègent la facture des Jeux. On n'a pas besoin de construire une salle qui permettrait d'accueillir un événement comme celui-là. Donc c'est le programme des Jeux est fait justement de à la fois du... Vous voyez, regardez, je vous cite un autre exemple qui me vient à l'esprit, l'équitation, le saut d'obstacle aura lieu, vous vous rendez compte, dans le prolongement du Grand Canal de Versailles. Donc des images somptueuses, qu'il faut aussi vendre un peu de rêve, hein, avec des cavaliers qui vont être très heureux de participer aux Jeux dans cette perspective magnifique.
Pour rebondir, qui... là, pour avoir cité vos épreuves d'aviron à Rio, avec voilà. Le pain de sucre derrière, le lever
donc,
du
voilà,
soleil
donc,
sur Rio,
voyez, c'est aujourd'hui, tout le monde se décarcasse.
Il ne faut pas oublier que les Jeux Olympiques font rêver quand même les athlètes, à défaut de faire rêver la population aujourd'hui. Et Jean-François Lamour, ce n'est pas la flagornerie, était quand même, après Jean de Côte-Quilly, c'est le meilleur médaillé olympique qui existait en France, avant qu'Estanguet arrive derrière, et Martin Fourcade. Ouais. Donc Jean-François Lamour, pendant un certain temps, était le maréchal, je peux dire, en quelque sorte. Le maréchal, nous voilà. Le maréchal de l'olympisme dans les années 80-90.
Alors, si on doit, puisqu'on était parti là sur la dimension rêve, et on reviendra dans un instant sur les autres causes là, de la désaffection et de ce lien qui se délite entre les populations et les JO, il y a d'autres lieux à Paris qui vont nous faire rêver. On va être sur le Champ de Mars aussi. La Seine va être associée également.
Bien sûr, tous les lieux, enfin, c'est des lieux, c'est excessivement simple. Paris va être, pour l'olympisme, placé dans l'absolu, va être vraiment la synthèse entre la culture et l'histoire et le futur. Parce qu'il y a aussi toute la partie innovation qu'il faut voir. Et va être vraiment un moment clé, charnière, économique bien sûr pour le CIO et pour la France, mais aussi au niveau de ce que devra représenter les Jeux Olympiques pour l'avenir. Sachant que Los Angeles est derrière, on va être en plein monde digital, en pleine communication virtuelle. Donc ça va être un monde totalement différent. Donc Paris a un double challenge. Il a un double challenge. Il a un challenge d'une part de proposer des Jeux économiquement viables et deuxièmement, de nous faire rêver au travers de tous ces monuments et de la promesse qu'il a faite, que non seulement c'est du passé, mais c'est aussi du futur.
Et donc, c'est l'avenir de l'olympisme dépend un peu de Paris,
ce qui renvoie
à l'histoire.
Je pense que les prochaines Olympiades 2024-2028, le CIO joue très, très gros. Évidemment, la France organisatrice également, nous venons de le dire, hein, sur les trois ou quatre éléments qui vont être ceux de l'héritage positif laissé par les Jeux, mais le CIO joue énormément dans les prochaines échéances 2024-2028, à l'évidence. Et c'est pour ça qu'on sent aujourd'hui ce frémissement auquel vous faisiez référence il y a quelques minutes sur cette réflexion nouvelle sur le contenu, sur la manière de respecter un engagement budgétaire. Mais c'est un combat, franchement, de tous les instants. Il faut le reconnaître, d'ailleurs. Il faut arrêter de laisser une opinion publique penser que tout ça, c'est que bénéfice.
C'est un long fleuve tranquille.
Que vous allez voir, ce que vous allez voir, évidemment pas. C'est une organisation extrêmement complexe à mener. Et on dit, mais c'est 2024. Non, c'est aujourd'hui. Les grandes décisions pour organiser les Jeux, elles se prennent
aujourd'hui. Ouais.
Alors, on va dire entre 2019 et 2020. Et tout le monde, aujourd'hui, s'attelle à la tâche. Je suis conseiller de Valérie Pécresse à la région Île-de-France. Nous avons déjà notre feuille de route. Nous avons été les premiers, d'ailleurs, la première collectivité avec le comité d'organisation, donc avec Tony Estanguet et Étienne Taubois, à définir un cadre de travail en commun, à la fois sur le contenu matériel, ce qui restera en dur, si je puis dire. La région va construire, par exemple, est en train de terminer la construction du slalom de canoë et kayak qui aura lieu dans une base de loisirs à Vers-sur-Marne. Donc on est propriétaire, la région, de cet équipement. Et ça va servir ensuite, ça va être utilisé par le grand public qui va pouvoir venir soit s'exercer à la pratique du canoë et kayak ou de l'aviron, soit venir de façon beaucoup plus ludique passer un week-end là-bas. Donc, vous voyez, on mêle à la fois le côté très populaire et le sport de haut niveau, mais c'est aussi un autre exemple très concret. Se faire porter par les Jeux l'idée que les Franciliens seraient beaucoup plus facilement bilingues, donc les aider à parler deux langues pour 2024.
Donc ça concerne également l'éducation.
Là, vous exactement. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'il faut aussi que l'Île-de-France accueille les 9 millions, enfin, ils seront 3 millions, mais il y aura 9 millions, entre 9 et 10 millions de billets vendus pour les Jeux. Pour beaucoup, venant de toutes les parties du monde. Il faut donc aussi que nous faisions en sorte que
l'Île-de-France accueille. Hein, pour les journalistes, pour les sportifs.
En particulier pour vous, tout à fait.
Ça a été une des réussites, d'ailleurs, dernièrement, des Coupes du Monde
non,
de
voyez,
football.
Revenir à ça, toutes ces opérations, toutes ces initiatives, c'est maintenant qu'elles se décident. C'est maintenant qu'il faut commencer à les financer. Ce n'est pas trois mois, trois semaines avant le début des Jeux.
Armand de Reninger, vous confirmez donc qu'il y a encore des défis à relever. Hein. Je reprends le titre de votre ouvrage, oui. « Change sous malédiction », défis politiques entre ville de Paris, région, oui. Département, et puis ce fameux Grand Paris en termes d'urbanisme.
Oui, les défis sont nombreux et complexes. Et il y a un problème, il y a un défi majeur que doit surmonter d'abord la France, parce qu'elle est organisatrice des Jeux de 2024 et parce que c'est la France. Il y a, je dirais d'abord, un défi en quelque sorte éthique. On voit aujourd'hui qu'effectivement, les Jeux Olympiques ont survécu à tous les boycotts, quels qu'ils soient, depuis 1896, et aussi aux crises financières. Maintenant, on a un CIO
qui
étonnamment
a compris
riche,
qu'il y avait une crise.
Étonnamment riche, et puis avec une image excessivement controversée au plan de la gouvernance et au plan de l'éthique. Il y a une crise institutionnelle au CIO. Il est toujours, comme il y a des années, il ne peut plus durer comme cela. Il n'a plus géré sa place dans la gouvernance du sport telle qu'elle est aujourd'hui. Puis la deuxième, il y a une crise éthique qui est fondamentale. Alors, je parle du dopage, de la corruption et tout. Jean-François connaît très bien ce problème. Mais là, si jamais on ne corrige pas cette image, vous êtes sûr que la population, au travers des réseaux sociaux, va se rebeller
contre JO. Parce qu'on rappelle, on va faire une courte pause. On rappelle qu'il n'y a pas eu de consultation populaire à Paris autour de JO, comme il y a eu à Calgary, là, au Canada, qui a rejeter l'idée de l'olympisme. On y revient dans un instant.
Dans un instant, 3921 si vous souhaitez intervenir sur notre antenne en direct et puis hashtag Europe 1 sur Twitter si vous souhaitez laisser un petit commentaire. Entre l'amour du sport de haut niveau et les politiques économiques, votre cœur balance. Eh oui, on parle des Jeux Olympiques, font-ils encore rêver? Les défis sont nombreux et complexes, nous le rappelait l'un de vos invités, François Claus. Il s'agit d'Armand de Reninger, consultant sur l'olympisme, auteur du livre Le Paris Olympique de 2024, Chant sous malédiction. Et puis on en parle avec Jean-François Lamour, qui est donc un ancien champion et un ancien ministre des Sports. On fait le tour de la question jusqu'à 11h.
Il a gagné des médailles au cours de 3 Olympiades. Hein. Il était le recordman avant de se faire dépasser par Martin Fourcade. On l'a vu tout à l'heure,
et Tony Estanguet
qui aujourd'hui qui préside au comité d'organisation de Paris 2024. Armand Reninger, je voudrais qu'on revienne un petit peu quand même sur ce que vous veniez de dire à l'instant, parce que dans cette crise de l'olympisme, on a parlé du gigantisme financier, on a parlé du vieillissement de la population qui suit les JO, des politiques sportives, on va y revenir parce que c'est important, notamment pour la France dans les pays, mais il y a aussi cette image que renvoie le CIO d'institutions corrompue, vieillissante, assise sur un tas d'or et qui ne s'est pas renouvelée. Aujourd'hui, Jean-François Lamour, avec ses contacts qu'il a, avec les visites régulières du CIO, on a le sentiment quand même que la prise de conscience est là et que c'est en train de changer.
La prise de conscience est là, elle est évidente. Le président Thomas Barr y a pris vraiment conscience qu'il était nécessaire de changer. Il a renouvelé un peu ses cadres. Effectivement, le président de la commission de coordination qui vient vérifier si tout se passe bien à Paris, le Belge Becker, c'est un garçon remarquable avec un potentiel à devenir président très certainement s'il réussit. Donc, il y a une prise de conscience, mais il y a des réticences excessivement importantes aujourd'hui pour une raison bien simple, c'est que l'institution est traversée par une multiplicité de conflits d'intérêts. Ce sont les mêmes qui gèrent, qui analysent et qui sanctionnent. Vous prenez en matière de dopage, par exemple. Je prends juste le dopage en soi.
Mais
vous prenez
Dieu sait si ça intéresse les gens.
L'Agence mondiale antidopage, que Jean-François connaît très bien pour y avoir œuvré et apporté sa contribution, eh bien, ce sont les mêmes acteurs que l'on trouve au niveau du CIO, au tribunal arbitral du sport et de l'AMA. Du coup, cette espèce de manière de gérer le dopage, où on se pose la question si on veut vraiment lutter contre le dopage. Or, c'est très compliqué dans un monde politique où les aspects politiques prennent le pas sur les aspects purement sportifs. Vous prenez le problème des conflits d'intérêts. Vous avez des gens au niveau du CIO aujourd'hui, dans le mouvement olympique international, qui se trouvent confrontés à des affaires majeures et qui sont en instance de jugement, mais qui continuent toujours à siéger.
Donc, les affaires ça renvoie une image. Modo, c'est la corruption,
c'est l'harcèlement sexuel, c'est les conflits d'intérêts, c'est le racisme, c'est l'hooliganisme. C'est de savoir si oui ou non. Et je sais que le CIO fait beaucoup d'efforts, et le mouvement olympique de manière générale aussi, pour que, effectivement, changer son image. Mais pour la changer son image, il doit
peut-être... Il faut des actes aussi.
Pour les actes, il faut des actes, mais il faut peut-être aussi l'acte majeur à faire, c'est que de considérer aujourd'hui que l'organisation des Jeux Olympiques, c'est de la responsabilité exclusivement des villes ou des pays. On partage les bénéfices, mais tous les déficits, c'est à la charge du pays. Il faudrait peut-être que le CIO se mette dans la disposition aujourd'hui où il est co-gestionnaire de l'organisation des Jeux, et là, on partage bénéfices et déficits potentiels.
Pour être clair, c'est combien de membres le CIO et quel
est... C'est 115 membres environ. C'est un nombre fixe, plus des membres honoraires. Et dans les 115, il y en a 15 qui ont une très grande influence sur tous les autres.
Oui, donc on voit que c'est un état dans l'état, Jean-François Lamour.
Oui, mais comme
tu vois, sceptique.
Non, mais évidemment, et Armand Renager a bien décrit la situation. Simplement, donnez-moi une organisation internationale qui ne vit pas effectivement ces conflits divers et variés.
On l'a vécu au niveau de la FIFA,
voilà,
pour le football,
non,
et
mais
ses
même,
251
je parle même
fédérations.
Hors sport, je veux dire, même hors sport, quand on regarde aujourd'hui sur l'Organisation mondiale du commerce, sur l'ONU, vous avez aussi, par définition, des conflits, ou en tout cas des conflits d'intérêts, ou des affrontements, très, très clairement. Regardez ce qui se passe en matière de climat, avec la remise en question de la COP21 par Trump. Et ça, vous ne pensez
bien
pas
sûr,
que c'est aussi...
Il est normal que le sport
non, mais vous
soit
trouvez
aussi
pas
affecté
que c'est,
par ces phénomènes.
On est exactement dans le même schéma, c'est-à-dire un schéma où les intérêts des pays, des continents, se retrouvent confrontés à la réalité, là aussi, d'une opinion publique, d'un peuple qui quelquefois, se soulève contre telle ou telle décision.
Mais ce qui veut dire indirectement que les JO ont encore...
En revanche, ce qui est vrai, c'est que le CIO, jusqu'à ces dernières années, restait une organisation très... Je ne vais pas parler d'opacité, parce qu'immédiatement, tout de suite, on voit le...
Repliée sur elle-même.
Mais en tout cas, très repliée sur elle-même, qui tenait très très peu compte des réalités du terrain et des difficultés que rencontrait une ville, effectivement, et un pays, parce que ce n'est pas qu'une ville qui organise, c'est également le pays derrière. Je pense en particulier en matière de sécurité.
On peut penser à la Grèce après les Jeux d'Athènes.
Je pense en particulier sur le coût de la sécurité, qui est que très très peu évoqué, et qui pèse de plus en plus maintenant sur l'organisation des Jeux. Et ça, très clairement, Thomas Barr le prend bien en compte, est en train réellement... de travailler en partenariat. Je rappelle que le CIO verse une aide de l'ordre d'un milliard d'euros à l'organisation. C'est la seule organisation sportive, la FIFA ne le faisant pas pour la
Coupe
du Monde de football.
Cette manne, elle provient essentiellement
des droits télé, et du top programme des partenaires du CIO qui sont de très grandes multinationales qui achètent le droit d'utiliser les anneaux pendant une Olympiade ou plusieurs Olympiades et qui permettent effectivement de venir participer au financement de l'organisation des Jeux sur la partie événementielle. Ce qui est vraiment aujourd'hui la grande difficulté, c'est que tout le reste, c'est-à-dire les infrastructures, sont à la charge des villes, des collectivités et de l'État. Et c'est là, je pense, où effectivement, il faut que de plus en plus le CIO viennent participer à l'effort de construction et donc au bout
et
du
interviennent
compte
peut-être
à l'héritage.
Après les JO, comme le disait Armand Renager, lorsqu'il y a
et soit partie prenante de l'héritage, que ce soit d'ailleurs du concret, du solide, mais également, quand c'est le cas, du déficit laissé par l'organisation des Jeux.
Armand Renager, je vous coupe également parce qu'on a une obligation, mais je vous donne la parole tout de suite après, dans une minute, on va entendre vos commentaires.
Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, il y a la page Facebook d'Europe 1 ou encore Twitter avec le hashtag Europe 1 sur tout ce qui a été évoqué ce matin. Continue à faire le tour de la question. 39-21 aussi, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Et ce matin, on se demande pourquoi le fait d'être une ville candidate aux JO n'est plus aussi intéressant en termes d'économie et de visibilité. On continue à faire le tour de la question. Les JO avec vous, François Claus, et vos invités.
Armand de Reninger, consultant sur l'olympisme, lisez, hein, c'est une très bonne synthèse. Le Paris Olympique de 2024, chance ou malédiction aux éditions Vigo. Puis l'homme qui incarne l'olympisme en France, l'un des grands champions olympiques français, Jean-François Lamour, ancien ministre des Sports, et qui est aujourd'hui conseiller municipal de Paris, et donc au cœur de la préparation de ces Jeux, et on l'a bien compris, qui va se jouer dans l'année qui vient, et l'année suivante, ce ne sera pas 3 semaines avant 2024 qu'il faudra se réveiller. Allez, je vous propose, on va se refaire un petit plaisir, c'était sur Europe 1 au mois de septembre 2017.
I have the great honor to announce that the International Olympic Committee has simultaneously elected Paris 24, Los Angeles 28.
On entend les applaudissements et la joie. Alors, Guy Drut était en direct sur l'antenne d'Europe 1 avec l'envoyé spécial d'Europe 1, Émilie Bollo, à Lima, au Pérou. Il y a eu pour vous, j'imagine, Jean-François Lamour, qui avait les JO chevillés au corps aussi, après tant d'échecs, un grand bonheur ce soir.
Oui, tant d'échecs, surtout que j'avais vécu l'échec pour 2012, hein, puisque j'étais à l'époque ministre des Sports. Donc ça, je peux vous dire que ça reste largement au fond de mes tripes. Donc d'avoir
même
vécu
déception que de perdre une médaille d'or en finale.
Oui, parce que pour un athlète olympique, le fait d'accueillir les Jeux dans son pays, c'est quelque chose d'extraordinaire, même si on n'est pas participant, c'est-à-dire acteur même des Jeux.
Parce qu'il faut transmettre ça, il faut
le vivre ensemble, mais pas simplement les sportifs entre eux. On sait que c'est quelque chose, c'est une offrande faite à ceux qui aiment le sport, pas le sport de très haut niveau, le sport qu'on pratique, où on progresse, où on le fait ensemble. C'est ça la pratique sportive, hein. C'est pas une pratique purement individuelle. Et le fait d'accueillir les Jeux dans son pays, c'est quelque chose de fantastique. Donc j'avais vécu l'échec pour 2012 de manière très profonde. Et c'est vrai que cette confirmation, parce que je rappelle juste au début ce que dit Thomas Barr, hein, oui.
Il donne les deux, il était super content d'avoir deux candidatures.
Parce qu'il n'y avait quasiment plus personne pour accueillir les Jeux en 2024 et 2028. Il faut juste se souvenir de ça.
Hambourg,
et c'est d'ailleurs
Rome qui avait
l'un
renoncé.
Des éléments du livre d'Armand Rendlinger. C'est justement cette désaffection des villes candidates, hein, pour les Jeux. Et le CIO était quand même très très content d'avoir deux villes très solides, avec beaucoup d'expérience dans le domaine de l'organisation d'événements sportifs et évidemment des Jeux, pour les accueillir lors de ces deux prochaines éditions. Mais je le répète, c'est maintenant un très très grand défi qui s'annonce et qui nous attend collectivement. Et il nous faut donc une opinion publique qui soit avec ces organisations favorables. Donc, répétons-le, ce qui compte beaucoup, c'est ce que nous allons laisser comme héritage. Je vous donne un autre exemple. À la région, nous voulons améliorer les structures pour accueillir très très vite sur le sol francilien les véhicules autonomes. Alors c'est facile à dire ça, hein, vous voyez, claquement de doigts, tiens, on va mettre des véhicules autonomes qui vont circuler un peu partout en Île-de-France. Non, ça veut dire qu'il faut installer des infrastructures routières. La région va investir 100 millions d'euros dans les infrastructures routières pour accueillir des véhicules autonomes.
Qui
resteront après, évidemment, c'est pas des trucs qu'on va démonter après les Jeux. Ça permettra en particulier de mieux réguler une circulation qui à Paris, en région parisienne, je ne vous fais pas de dessin est catastrophique, mais qui va donc permettre justement, dans le domaine de l'innovation, dans le domaine d'une autre forme de transport, de laisser un héritage concret aux Franciliens. Voilà un exemple qu'il faut faire connaître pour démontrer que les Jeux peuvent, vous l'avez dit vous-même, et ça, je crois que c'est un des éléments majeurs, être un vrai booster d'aménagement d'un territoire. Vous voyez, c'est un accélérateur. On ne transforme pas radicalement un terrain. Moi, le plus bel exemple que beaucoup connaissent maintenant, c'est Barcelone. La ville a été transformée par les Jeux. Transformée. Elle était repliée sur ses terres. Elle s'est ouverte à la mer grâce aux Jeux de Barcelone. C'est, je l'espère,
qu'on ouvre le périph à Paris en 2024
qu'on ne ferme pas surtout, qu'on l'ouvre, exactement.
J'ai vécu une douzaine de candidatures, et là, je partage tout à fait le sentiment de Jean-François. L'échec de Singapour pour les Jeux de 2012, on l'a à travers la gorge.
On l'a vécu durement aussi.
On l'a vécu durement. En plus, moi, j'étais sous le contrôle de Jean-François Lamour. J'étais en charge de l'international, donc je me sens, je dirais, totalement responsable de l'échec. Alors, les causes de l'échec, elle a fait l'objet d'un livre, on pourra en revenir par la suite. Elles
sont multiples.
Oui, c'est ça. Elles sont diverses et tout. Non, sans mobilisation de la population, les Jeux risque de poser problème.
Mais alors,
elle peut pas se décréter, mais il y a un certain nombre d'actions à mener. Il y a des actions au niveau du COJO, du comité d'organisation, qui sont indispensables. C'est-à-dire que on ne peut pas mobiliser les gens derrière un concept en disant on va juste contrôler les budgets mieux, on va avoir un héritage. Tout ça, c'est très flou pour les populations d'aujourd'hui, qu'elles soient en gilet jaune ou pas en gilet jaune, si je veux dire très clairement. Là, aujourd'hui, il est clair que le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 doit maîtriser son budget et assurer la promesse d'avoir un effet JO. Ça, on peut revenir tout à l'heure. Mais d'un autre côté, en parallèle, il faut savoir que la richesse du CIO et l'image du CIO, du mouvement olympique d'une manière générale, passe au travers de deux choses, les partenaires économiques et les médias. Aujourd'hui, les partenaires économiques se posent des questions quand même très clairement, si oui ou non.
C'est les sponsors, c'est qui va payer pouvoir bénéficier de l'image des JO.
Et la deuxième chose, les médias. Et les médias sont en pleine transformation.
Qui
est bien placé pour le savoir, avec tous les réseaux et tout. Et là, aujourd'hui, le CIO ne peut plus jouer avec les médias et avec les partenaires économiques comme il le faisait par le passé.
C'est-à-dire, d'augmenter les droits TV de manière exponentielle.
Là, on a quand même jusqu'en 2032, ils ont vendu pour 7 milliards les jeux jusqu'en 2032.
7 milliards,
7 milliards, 7 bon, milliards.
Une télé qui va chez JO,
elle va se lui coûter très... une télé, ça dépend de la surface qu'elle va couvrir.
En France,
on parle du milliard. Il n'y a pas de souci de côté, là. En plus, c'est Discovery, je crois, qui a les droits pour pouvoir les commercialiser. Mais ça va coûter, effectivement, très cher. Mais on ne peut plus continuer comme ça à l'infini. Les médias ont leur responsabilité. Non seulement ils sont partenaires économiques, ils doivent gagner de l'argent, mais en plus, ils doivent répandre l'olympisme. Ils ne peuvent pas répandre l'olympisme vis-à-vis d'une population qui serait hostile pour des raisons éthiques.
Mais ce que vivent les médias avec la Coupe du Monde aussi, quand TF1 achète les droits de la Coupe du Monde, et dit on va perdre de l'argent, mais on est obligé de le faire parce que c'est aussi l'image de notre télé qui est en jeu.
Alors d'un côté, vous avez le comité d'organisation des Jeux Olympiques au sens large, qui doit organiser les Jeux correctement au plan financier et au plan de l'héritage. Et de l'autre côté, l'humour olympique, il doit se transformer vis-à-vis des médias, vis-à-vis de ses partenaires économiques pour survivre.
Nouvelle relation, challenge. Oui, comme vous dites, nouvelle relation établie. On va voir justement si elle va s'établir. Et puis, il y a une question importante, et on va finir par ça, ce que ça génère en termes de pratique sportive. Voilà. Et comment l'olympisme s'intègre dans une pratique sportive, c'est une question capitale également. À tout de suite.
Si vous souhaitez intervenir, c'est encore possible au 39 21 50 centimes la minute. Un petit commentaire aussi, allez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Europe 1. Le tour de la question suite et fin, on parle des Jeux Olympiques. Avec vous, François Claus, pour quelques minutes encore.
Avec nos invités, Armand de Redinger, Jean-François Lamour, et avec vous, les auditeurs au 39-21. Et Francine nous appelle justement. Bonjour Francine.
Bonjour à tous. Voilà, je voudrais intervenir sur... Alors bonjour à tous. Je voudrais intervenir sur plusieurs points qui ont été soulevés lors de cette émission. J'ai une proposition à faire. Moi, je souhaiterais, dans un but d'équité, d'économie, de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire d'organiser les Jeux Olympiques à Athènes, sur un lieu unique qui, premièrement, relancerait l'économie du pays. Ça se passerait en Europe, parce que c'est quand même là l'origine des Jeux Olympiques. Les infrastructures pourraient être financées par tous les pays participateurs. Les infrastructures, après l'organisation des Jeux Olympiques, pourraient servir de base d'entraînement pour tous les athlètes. Je pense aussi que le comité des Jeux Olympiques pourrait aussi s'élargir avec des participants de la société civile, comme ça a été un peu proposé. Ça éviterait peut-être une opacité et une forme de communautarisme d'organisation. Ensuite, pour les petits pays qui n'ont pas toujours les moyens d'envoyer leurs athlètes, on pourrait financière pour leur permettre d'organiser leur entraînement et surtout leur voyage et leurs conditions d'hébergement.
C'est une très très belle proposition que vous nous faites là, Francine.
Et je voudrais conclure rapidement, parce que je sais que c'est la fin de l'émission. Je ne suis pas d'accord avec M. Lamour qui dit qu'effectivement, il va y avoir une répercussion économique sur le pays, mais ce n'est pas à l'organisation des Jeux Olympiques de relancer l'économie du pays. Il ne faut pas se substituer à l'État. Par contre,
on a dit booster, c'est le mot qu'on a employé. Oui, c'est-à-dire ça peut l'aider, Jean-François Lamour. Proposition de Francine, Athènes, tous les 4 ans. On revient à la base.
À la base, oui, mais d'ailleurs, ça fait l'objet d'une réflexion du CIO, d'organiser les Jeux au même endroit tout le temps. Ce n'est pas une mauvaise idée.
Jeux
oui, mais bon, tout ça peut évidemment s'arranger. Et le fait qu'on investisse durablement sur un lieu unique pourrait être une solution envisagée. Simplement, l'idée des Jeux, c'est aussi l'universalité. C'est-à-dire que cet esprit des Jeux puisse être organisé sur les 5 continents. Et il y a un continent sur lequel les Jeux n'ont jamais été organisés, et c'est pas demain la veille, puisque malheureusement tout ça coûte encore très cher, c'est le continent africain.
Bien sûr,
et je pense qu'il est important aussi pour une population jeune, notamment. Une population jeune en Afrique, de pouvoir un jour démontrer que ces Jeux sont un accélérateur de développement d'une ville, d'un pays et de la pratique du sport sur un continent qui, évidemment, n'attend que ça. Je veux dire, en théorie, tout le monde serait assez d'accord. Simplement, aujourd'hui, les Jeux coûtent tellement cher que c'est inenvisageable.
Oui,
donc l'idée est séduisante, mais ça contrevient un peu à cette idée de dire, mais les Jeux, Les Jeux, c'est partout dans le monde. Je rappelle que les Jeux anciens, c'était des Jeux qui correspondaient à Sparte, à
c'était
Athènes.
C'était quasiment deux pays, différents.
Là, on
arrive,
on arrive
à la fin de l'émission et je voulais conclure avec vous, messieurs. Les conditions de réussite de 2024, on les a un petit peu distillées. Si vous deviez en choisir une, qu'est-ce qui va permettre de relever les 24 défis que vous détaillez dans votre livre, Armand Braninger ?
C'est d'une part la capacité du COJO de travailler d'une manière tout à fait autonome et sans pression pour gérer ces 6,8 milliards. De ne pas dépenser au-delà de ce qui est nécessaire pour l'organisation des Jeux. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est que l'État français, les pouvoirs publics, trouvent les moyens d'investir immédiatement dans ce qu'on attend de l'effet JO, l'équilibre territorial, l'éducation sportive, la modification de la mobilité dans les villes pour les handicapés. Et ça nécessite d'investir immédiatement pour avoir l'effet JO. Si on n'investit pas immédiatement, il n'y aura aucun effet JO.
Et répondre aux interrogations
de Francine. Et ça sera une malédiction et non pas une chance, alors que je crois que c'est une chance véritablement d'avoir les Jeux.
De répondre aux interrogations de Francine qui nous appelait et qu'on remercie. Jean-François Lamour.
Toutes les questions de mobilisation, on les a les Jeux. Voilà, maintenant on les a. On ne va pas se poser des questions de savoir si c'est bien ou pas. On les a.
Et donc on a compris qu'au-delà de Paris, c'est même l'ensemble de l'olympisme
Mais pour que ce soit une réussite, il faut des exemples concrets, des résultats concrets entre aujourd'hui et 2024. Bizarrement, pas après 2024.
La communication et les messages se jouent maintenant.
Mais pas que la com. Des éléments concrets, je vous les ai cités.
Quand je dis comme,
voilà, il faut maintenant démontrer qu'on est capable de livrer ce qui va améliorer le quotidien des Français, je n'ai même pas dit les Franciliens, mais les Français, entre aujourd'hui et 2024. Ça, c'est le chantier prioritaire de Tony Estanguet, de son équipe et des partenaires fondateurs, la ville, la région Île-de-France, l'État, évidemment. Et je regrette juste que l'État, dans son budget des sports, n'ait pas fait ce petit geste supplémentaire sur 2019 pour démontrer que l'État accompagnait ce mouvement.
Et c'est un problème qu'on évoquera, bien sûr. Merci beaucoup Jean-François Lamour, merci Armand de Redinger. Le Paris Olympique 2024, j'ai aux éditions Vigo. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné cette semaine, Philippe Amardel, Jean-François Buffière à la réalisation, Thibault Lambert, Chadel Petit, Naïma Benchemann, Lord aussi à la programmation, Hugo Delamarre et Cédric Marlani au téléphone. Vous voyez, la radio, c'est un sport collectif aussi. Lundi, vous retrouvez Wendy.
Wendy Bouchard et Julie. On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public.